Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
C'est notre chance. Huitième épisode.
À l'Élysée, on était persuadé que les amis de Luc Peyron étaient dangereux.
Il y a quelques mois, nous avons perdu la trace d'un groupe de hackers que les services de l'ANSSI surveillaient étroitement. Des hackers de haut niveau. Ils se sont littéralement volatilisés. Luc Peyron était en contact régulier avec eux.
Sans doute à des fins de recherche. Luc avait un esprit curieux de tout.
Dans la foulée de cette disparition, nous avons pu observer des intrusions sur de grosses bases de données européennes.
Quel type de bases ?
Des bases financières.
Les banques, la bourse, c'était la spécialité de Luc. Donc, ça confirme ce que je vous dis, ça devait être pour ses recherches. Je vois là rien d'inquiétant.
On a tout lieu de s'inquiéter, au contraire. L'association de ce groupe de hackers et de plusieurs universitaires de haut vol ne peut rien présager de bon. On craint un hold-up qu'une ampleur jamais vue, ou un chantage à grande échelle dont on ignore quelle serait la rançon.
De mon côté, j'avais eu un rendez-vous avec Nel Frégo pour la convaincre de diriger ma thèse. Je n'ai pas eu l'occasion de la revoir.
Willy, vous avez vu, qu'est-ce qui se passe ?
Je vous ai de ne pas y aller, c'est gore.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est Madame Frégo. Il paraît qu'elle s'est jetée par la fenêtre de son bureau.
Le désordre devant la fac était incroyable.
Faut pas rester là, Laura.
Vous avez raison.
Willy ! Willy !
Allez la rejoindre, on se retrouve plus tard. Faut partir ! Faut sortir de là !
Tout va bien, je suis là.
Ils vont tuer d'autres gens, viens !
De quoi tu parles ?
Mais des types qui ont fait ça, Willy ! Si ça se trouve, ils sont quelque part dans la fac !
Mais non, mais c'est un suicide, elle s'est jetée.
C'est comme dans les facs aux États-Unis.
Oh, tu délires, c'est Madame Frégo. Elle s'est jetée dans le vide. Je l'ai vu tomber, Sabine.
C'est vrai ?
Non, mais j'ai entendu son cri.
Comment tu peux me raconter des bobards maintenant ?
C'est le moment ou jamais. Allez, viens. Hein ? Je te ferai un café ? Avec ton argent ?
J'ai réussi à m'isoler dans les toilettes pour appeler Vincent.
Je te dis que quand je suis sortie de son bureau, j'ai croisé un type à quelques mètres. Il devait attendre dans le couloir. Il m'a bousculée. Genre la cinquantaine, barbiche, lunettes noires. Je l'avais jamais vu à la fac. Je suis sûre qu'il est entré dans le bureau de Nel Frégo après moi.
Mais non, c'est pas possible.
Écoute-moi, je crois pas au complot, je suis pas parano, mais Luc Peyron est mort. Moi j'ai été séquestrée et maintenant Nel Frégo tombe par la fenêtre de son bureau. Me dis pas que ce sont des hasards. Ce ne sont pas des hasards.
Laura, il faut qu'on aille voir les filles tout de suite. Il faut tout leur raconter.
Attends, je sais pas.
On va voir Vanier. C'est forcément lui qui va être en charge de l'enquête.
Il était tellement en charge de l'enquête sur la mort de Luc qu'il a conclu au suicide. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer pour Nel Frégo ?
De toute façon, je l'ai déjà appelé.
Quoi ?
Après ton agression et le vol, je suis allé le voir.
Mais...
Il fallait le faire, Laura.
Tu m'avais promis. À toi non plus, je peux pas faire confiance, en fait.
Laura ?
À la présidence, Christine Collat recevait le responsable des locaux.
On a 17 personnes à l'infirmerie. J'ai fait réquisitionner une salle pour accueillir les autres. On a déjà eu 3 évanouissements.
Ouais, ils sont sous le choc, hein, comme nous tous.
J'ai jamais entendu des gens hurler comme ça.
Bon, première chose, il faut sanctuariser l'endroit où le corps est tombé.
La police va s'en charger.
Non, il faut empêcher l'accès sur un plus grand périmètre. Donc vous entourez de barrières la plus grande zone possible, sans bloquer le passage. Il faut coûte que coûte éviter les rassemblements morbides et autres manifestations d'hystérie.
Ok, je vais m'occuper de barricader tout ça.
Et vous me tenez au courant ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que ça donne, Patricia? Vous y arrivez?
Oh, la messagerie de M. Baron doit être pleine. Je peux même plus laisser de message.
Il n'a pas joué les filles de l'air maintenant.
J'errais dans les couloirs de la fac quand j'ai vu Arnaud Razen passer devant moi. J'ai bondi sur lui sans réfléchir.
Laura Vanetti, j'ai été doctorante de Luc Payron. On s'est parlé il y a une quinzaine de jours.
Je me souviens, oui.
Je peux vous parler?
Ce n'est pas le temps.
Mais le suicide de Nel Frégo, c'est pas normal. C'est comme celui de Luc.
Écoutez, il y a une enquête, j'en sais rien, moi.
Mais on n'a jamais vu deux profs se suicider comme ça, coup sur coup, et dans l'université.
Je ne suis pas la bonne personne pour en parler.
Mais qui ça va être après eux? Ça vous inquiète pas, vous?
Si vous n'êtes pas bien, adressez-vous à la cellule psychologique. Je ne peux rien pour vous.
J'avais demandé à Nel Frégo de bien vouloir lire mon travail. Elle était d'accord. J'ai plus que vous, je vous en prie.
Ça suffit. Laissez-moi passer, s'il vous plaît.
Et si c'était vous, le troisième? Après Payron et Frégo, ce serait logique.
Foutez-moi la paix, maintenant. Poussez-vous.
Dans son bureau, Christine Collat était maintenant aux prises avec le capitaine Vanier.
C'est tout ce que j'ai à vous raconter, capitaine. Je connaissais mal Nel Frégo. Je ne sais pas ce qui a pu la pousser à se jeter par la fenêtre.
J'ai eu sa sœur, Maya. Elle est en soins palliatifs. Elle m'a dit que Nel Frégo était extrêmement affectée par son cancer.
Maya Frégo a un cancer?
Vous ne le saviez pas?
Elle est arrêtée depuis longtemps, mais j'ignorais ce qu'elle avait.
Je pensais que vous étiez au courant.
Oui, non. Bon. En même temps, les jumelles, c'est toujours mystérieux. Peut-être que l'idée de perdre son double était insupportable à Nel. Si jamais il existe de bonnes raisons de se suicider, ça peut probablement en être une.
Sans doute. Mais c'est le deuxième suicide dans votre université.
Inutile de me le rappeler.
Il y a eu des réorganisations au sein de votre établissement, Madame Collat? Des problèmes entre collègues ou avec la hiérarchie qui aurait pu motiver un tel acte?
Aucun. Et l'université n'est pas une entreprise, contrairement à ce que certains voudraient croire. Les professeurs sont autonomes.
Généralement, quand on se suicide, c'est chez soi. Sauf quand on veut désigner le lieu où l'on travaille comme étant à l'origine du malaise.
Si vous voulez me faire porter la responsabilité de ce drame, allez-y.
Je cherche seulement à comprendre, Madame Collat.
Madame la Présidente, j'ai Madame Cayette du rectorat.
Passez-la à moi. Excusez-moi, capitaine. On en a terminé?
Pour le moment, oui. Mais je reviendrai. Je vous remercie. Au revoir, Madame la Présidente.
Bonjour, Madame Cayette. Juste un instant, s'il vous plaît. Je reste à votre disposition, capitaine. Au revoir.
Bruno Kwaranski et les autres se sont réunis le soir même.
On commence. Dans 20 minutes, on doit être parti. Je vous remercie d'avoir réagi aussi vite. J'espère que vous avez suivi à la lettre les consignes de prudence. Je vais aller à l'essentiel.
Nel Frégo, c'est ça?
Oui. Nel. Je refuse qu'on s'étende sur des hypothèses. C'est clair?
Au contraire, il faut débriefer. On en a besoin pour avancer.
À part dire que sa mort et tout sauf accidentel. Que peut-on ajouter?
Alors si c'est pas pour parler d'elle, qu'est-ce qu'on fait ici?
Je vous ai réunis pour vous informer que la mort de Nel signe pour nous le passage à la phase opérationnelle.
C'est pas possible, ça va trop vite.
L'exercice de simulation à grande échelle que nous avons lancé se déroule comme nous l'espérions. Les équipes informatiques m'ont fait savoir qu'on pouvait prévoir le déclenchement dans moins d'un mois. J'attends de votre part que vous vous en réjouissiez.
Oui, c'est Razel, pour le groupe de l'équipe.
Vous l'avez dit, alors?
Désolé, je me suis fait alpaguer par des collègues. Ils sont persuadés que Nel Frégo a été tué. Comme tout le monde à la fac, d'ailleurs.
Nous savions tous ici que notre engagement comportait des risques. À quoi vous attendiez-vous?
Pas à mourir.
Luc et Nel avaient compris que c'était envisageable et l'avaient admis. Maintenant, ceux qui trouvent ça insupportable peuvent s'en aller.
Insupportable, Bruno, c'est cette prise d'otage que tu tentes de faire. Pour ma part, je propose qu'on mette au vote le démarrage de l'opération.
Non.
Mais comment tu peux imaginer que nous allons te suivre alors que tu te fous de tout ce qu'on te dit?
La décision, nous l'avons prise une fois pour toutes en entrant dans le groupe. Si ça ne te convient pas, tu peux partir.
Non, je ne veux pas te permettre de
tourner comme ça.
Grimsay a raison. Grimsay veut mieux de s'occuper des petits problèmes qui gênent son départ pour Stanford. Veux-tu que j'en parle, Frédéric?
Inutile. Bruno a raison. On doit y aller, il faut tous s'y mettre.
Les gens qui jusque-là étaient irremplaçables ne le sont plus. Est-ce que vous voulez, oui ou non, aller jusqu'au bout? Je prends bonne note de votre accord.
Christine Cola était encore au téléphone avec Madame Kayat du rectorat. Elle ne s'en sortait pas.
Je vous le redis, le suicide de Madame Frégo est un choc pour tout le monde. Je suis aux premières loges pour le constater, Madame Kayat, croyez-moi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la solution que je vous propose?
Mais oui, c'est une bonne idée d'installer une hotline. Il faut éviter qu'il y ait d'autres suicides.
Vous devez y consacrer toute votre énergie.
Mais je ne peux pas, hélas, être derrière chaque étudiant au choc professeur.
Quand nous avons mis ce système en place à l'Institut universitaire européen de Florence, après la vague de suicide, ça a très bien fonctionné.
Mais moi j'ai plus de 13 000 étudiants, presque 700 professeurs et 1 400 doctorants. C'est une arithmétique assez différente.
Le rectorat fait le maximum pour dégager les lignes budgétaires nécessaires en tenant compte de cette arithmétique, Madame Cola. Ah, je vais devoir vous quitter. Veuillez m'excuser. Nous nous rappelons très vite.
Absolument. Ouf, j'en pouvais plus. Patricia ? Patricia ? Vous avez du nouveau du côté de François Boiron ?
Rien du côté d'Élysée, madame.
Oh, il va quand même pas me laisser tomber comme ça, ce salaud. Excusez-moi, Patricia, avec tout ça, je ne sais plus comment je m'exprime.
C'est normal. Pardon, madame, mais mademoiselle Vanity veut vous voir. Je lui ai dit que j'allais vous poser la question.
Vous avez bien fait. Faites-la entrer.
Vous êtes sûre?
Absolument. Laura, venez.
Bonjour, madame. Je devais vous déposer les éléments déjà écrits de ma thèse.
Et vous êtes l'éclaircie de ma journée. Déposez ça, là. Non, montrez-moi. C'est déjà un travail conséquent.
Il me manque encore beaucoup de choses.
Je vais lire ça avec délectation, je vous assure. Après ce drame épouvantable.
Oui.
Vous connaissiez Madame Frégo?
Pas du tout.
Ah. Racontez-moi un peu ce que vous cherchez à faire avec ce gros pavé.
Ah, alors...
Ramonet avait hâte de faire son rapport à Boiron.
J'attendais votre appel, monsieur.
Mission accomplie d'après mes échos.
Affirmatif.
Tout s'est bien passé?
Oui, le terrain est plutôt facile d'approche.
Et la cible?
Elle a compris immédiatement pourquoi j'étais là.
Elle n'a pas demandé qui vous envoyait?
Si, mais pour la forme. Elle savait qu'elle ne tirerait rien de moi, et vice-versa. C'est elle qui s'est levée et qui a fait le premier pas vers la fenêtre, la grande classe.
Merde.
Il y a un problème?
J'aurais préféré qu'elle panique et qu'elle nie. Son attitude nous donnait là une bonne idée de l'engagement des membres de ce réseau.
C'est sûr que c'est plus facile d'avoir affaire à des amateurs.
Ouais, bon. On a fait le tour.
Qu'est-ce que je fais avec Vanity?
Rien.
En cas de besoin, on sait où la trouver de toute façon.
Voilà. Je vous recontacte plus tard.
Vincent était chez nous. Il m'avait déjà laissé une dizaine de messages.
Bonjour, on est bien sur le fait de l'heure à Vanity.
Ouais, Laura, c'est moi. Écoute, rappelle-moi, s'il te plaît. Rappelle-moi vite, je sais pas où t'es, là.
Les messages laissés par Vincent ce jour-là m'ont conduite en banlieue, dans une imprimerie, où je n'étais pas venue depuis longtemps.
Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je cherche Michel Caro.
Michel?
Attendez. Je le vois pas. Ah, il est peut-être à la 7. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Je cherche Michel Caro, s'il vous plaît.
Michel ! Du monde pour toi !
J'arrive ! Ah, Laura !
C'est alors, si je m'attendais.
Bonjour, Michel.
Alors comme ça, tu nous fais l'honneur d'une petite visite ? T'avais des courses à faire dans le coin ?
Pas vraiment, non. Est-ce que mon père est chez toi ?
Il a toujours une chambre, oui. Et ce qu'il doit se demander, c'est s'il a toujours une fille. Ça fait quoi ? 4, 5 ans que t'as pas vu ?
J'ai besoin de lui parler.
T'as pas changé. Direct au but sans fioriture. Il est jamais là dans la journée, ton père. Il aime pas le bruit. Il est au bistrot, derrière.
Merci. Merci, Michel.
Oh là, tu vas où ? Quand on va voir Christophe, on passe jamais deux fois par la même porte, t'as oublié ? Allez, suis-moi.
Bonjour. C'était Bonjour. Un bistrot pour habitués. Il était là. À une table à part, au fond, le long du mur.
Salut, papa.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux t'asseoir? Tu prends quoi?
Merci, rien.
T'es pressé? Tu veux déjà repartir?
Papa, s'il te plaît.
T'as pris un coup de vieux.
J'ai pris 5 ans.
Ah ouais, c'est vrai, t'aimes bien les chiffres.
Les pères en prison, ça développe le goût des dates.
Il y a prescription, non?
Il n'y aura jamais prescription, tu le sais très bien.
Écoute, si c'est pour encore remuer le passé, on va s'arrêter là. J'ai plus le goût à ça.
Moi non plus.
Qu'est-ce que tu fais de beau? Toujours dans les études?
Je finis ma thèse.
Ah, c'est bien. Elle parle de quoi?
Disons que c'est une analyse du système boursier actuel. Je le prends comme un système religieux.
Quand même.
Pourquoi tu souris?
Parce que, pour rien, fallait y penser.
Et toi? Ça va?
On fait aller. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot. T'es pas venu pour me raconter ta vie ou m'écouter te raconter la mienne. Alors qu'est-ce qui t'amène?
Il faut que j'aille voir les flics.
Hein?
Est-ce que c'est encore embêtant pour toi? Mais réponds. Qu'est-ce que t'as?
Je pensais pas que mon sort pouvait t'intéresser.
J'ai pas le choix, j'ai que toi.
Pourquoi tu dois aller voir les flics?
Ça te regarde pas.
Tu me feras jamais confiance, hein?
Alors que la ville était en train de s'assoupir, Willy et une bande d'étudiants avançaient à la lumière de leur portable dans les couloirs d'un sous-sol.
Ça fait flipper quand même. Hey les gars, pourquoi on n'allume pas la lumière? Il n'y a personne ici, non?
Ouais, parce que des fois, il y a des gardiens.
Sérieux? Qu'est-ce qu'il a dit, là?
Oui, il a dit « Fremtagol ».
Quoi?
Fremtagol.
Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est juste, ça fait peur un peu.
Chez elle, Christine avait raconté sa journée à son mari.
Luc est mort dans les mêmes conditions il y a 15 jours. Elle aussi a été tuée.
Aucun rapport. Luc n'avait pas de problème alors que Nell, si.
Quel problème?
Sa sœur était très malade.
Et?
Elle ne le supportait pas, ce sont des sœurs jumelles. Ne te fais pas plus bête que tu n'es.
Oh, tu crois pas toi-même à ce que tu dis.
Tu m'énerves. Sers-moi un verre plutôt. Merci.
Je vais pas revenir là-dessus, Christine. Il faut que tu démissionnes.
Et que je laisse en plan mes profs et mes étudiants? C'est toute la conscience professionnelle et morale que tu me prêtes?
Et ton homme de l'Élysée, il en pense quoi?
Rien.
Comment ça, rien? Il a forcément quelque chose à dire.
Ben, j'ai pas réussi à le joindre.
Au pire moment pour toi, il répond plus. Ça veut dire quoi, ça?
Je ne sais pas.
Je suis désolé de te dire ça, mais tout ce que j'espère, c'est que ça fera suffisamment de remous pour que tu sois viré. Ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver.
Embrasse-moi au lieu de dire n'importe quoi. J'ai connu plus langoureux comme baiser.
S'il y a des malades qui s'en prennent à tes profs, un jour ou l'autre, tu vas être leur cible. Et ça me rend dingue de rien pouvoir faire.
Tu me fatigues. J'ai une thèse à lire. À tout à l'heure.
C'est ça.
Willy avait fini par arriver dans l'ancien gymnase. Il avait même pu profiter des vestiaires.
Oh les mecs, eh, j'ai trop kiffé quoi. Eh, j'ai trop envie de t'embrasser.
Non.
Tenez. C'est trop bien. Eh, dire que ma mère elle vient me forcer pour que je prenne ma douche sérieux. Alors qu'en fait, y'a pas mieux au monde.
Surtout ça fait 3 jours quoi.
Ça fait 4 jours, mon gars.
Arrête de te foutre de l'angle. Arrête, assieds-toi. Arrête de marcher sur ma chambre.
Excuse-moi.
Assieds-toi.
Ok. Arrête
de me gauche en volant.
Can I smoke?
Tu peux fumer, mais pas trop. À cause de l'odeur.
Ouais, t'inquiète. C'est pas encore. Tiens, un peu de manège.
Apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer. 8e épisode, avec Tiphaine Rabot-Fournier, Guillaume Marquet,
Slimane Yevsa,
Hélène Alexandrovis,
Philippe Pétieux,
Benoît Guibert,
François Hatt,
Christina Crivillène,
Jean-Jacques Vanier,
Pascal Collin,
Jean-Louis Coulocq,
Jean-Luc Guillotin,
Jean-Claude Durand,
Chami Mamed,
Marc Raffray,
Flore Bablé,
Philippe Pierrard,
Aurélien Ozinski,
Sophie Gubry,
Nathalie Canoui,
Sébastien Faglin,
Islam Arifoul,
Renaud Abraham Kremer. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière et Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Benjamin Habitant.
Extrait du journal de Luc.
19 mai. Longue séance de travail avec Stéphane aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de le voir. Sa thèse est encore au milieu du guet, mais déjà se dessinent de très belles choses. Il n'a pas d'allocation, se démène comme il peut en donnant quelques cours, mais ça n'a pas l'air de l'affecter. Il dit qu'il n'aime que les pâtes au beurre de toute façon et qu'être pauvre ne le dépayse pas beaucoup de l'enfance. Avec les doctorants, il y a toujours ce moment délicat où il devient nécessaire de leur faire expliciter les raisons du choix de leur objet. La dette. Je ne saisissais pas ce qui unissait cet étrange objet à son histoire. Il me semblait qu'au contraire, il devait se sentir léger comme une plume, sans le poids d'une lignée d'intellectuels scrutant ce qu'il écrit par-dessus son épaule. J'ai fini par lui poser la question. Hormis un objet de recherche, c'est quoi la dette pour vous ? Stéphane a reçu ma question avec un immense sourire qui m'a soulagé. Il m'a répondu « Mais Luc, enfin, la dette, c'est moi !» J'ai cru à un mot d'esprit, mais je n'ai pas compris. Charitablement, il s'est mis en peine de m'expliquer. « Je suis en doctorat, m'a-t-il dit. D'où je viens ? Comment croyez-vous que j'y sois arrivé, si ce n'est parce que mes parents m'ont tout donné ?» Il a insisté sur le tout. Ils m'ont donné l'amour, mais surtout, c'est plus rare, ils m'ont donné la joie, la confiance, le courage et la liberté. Ils étaient persuadés que quoi que je fasse, il a répété, quoi que je fasse, ce serait formidable. C'était pas de l'indifférence, c'était simplement quelque chose de très clair pour eux. On fait des enfants, on les aime autant qu'on en est capable, et puis la vie leur appartient. Il a éclaté de rire et puis il a conclu, je suis le plus héritier des héritiers en fait. Je me suis dit qu'un type aussi bien ne pourrait qu'écrire de belles choses. J'ai honte de l'écrire ici, mais j'ai aussi éprouvé une pointe de jalousie. J'ai pensé à mon père et ça m'a agacé. À mon âge et après avoir grassement entretenu mon psychanalyste pendant près de 15 ans, c'est aberrant. Pour Laura, je ne suis pas encore certain d'avoir saisi le lien qui l'unit à son objet. Son père a été braqueur. J'ai compris à demi-mot qu'il avait été très absent, en prison j'imagine, et que les rapports entre elle et lui n'ont jamais été au beau fixe. Braqueur. Elle travaille sur les marchés boursiers. C'est maigre. Il doit y avoir autre chose. Je n'oblige jamais mes doctorants à écrire leur auto-socio-analyse. Je trouve que cela relève du voyeurisme. Mais je crois qu'il faudra le moment venu que je demande tout de même à Laura d'écrire un tel texte. Je ne lui demanderai pas de me le donner, ni de le faire lire à qui que ce soit. Mais je lui expliquerai pourquoi il est important pour sa recherche qu'elle clarifie pour elle-même, ce qui constitue le nœud qui l'unit à sa question. J'ai vu des thèses de chercheurs militants incapables de dire la vérité sur leur terrain, ou la disant à leur insu parce qu'ils ignoraient l'existence d'un tel nœud. J'ai vu des thèses de jeunes gens s'y convertir à un concept ou à une théorie, là aussi à cause d'un nœud non identifié, qu'ils prenaient des forceps pour faire entrer leurs données d'enquête dans le cadre qu'ils s'étaient choisi. À la lecture de tels travaux, le monde semblait difforme, comme démembré. Je ne crois pas que Laura appartienne à l'une ou l'autre de ces catégories, mais il faudra qu'elle-même s'en assure. Les nœuds qu'on ignore finissent en général par nous étrangler, et je n'aimerais pas que Laura laisse la fébrilité qui est parfois la sienne la dévorer et miner sa recherche. Il faudra que je trouve le moment opportun pour lui en parler. »